Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Ça veut dire que quand tu es une femme aujourd'hui et que tu pitches, ce qu'on appelle pitcher, des investisseurs pour leur présenter ton projet et aller chercher des fonds quand tu es entrepreneuse, à CV égal, pitch égal, présentation strictement égale, les investisseurs préféreront toujours une voix masculine.
En amont de cet épisode, bonne année. Très très bonne, belle et heureuse année. Je vous souhaite votre année, celle que vous aurez décidée. Un jour on m'a dit, un rêve c'est une vision avec une date. Eh bien j'en suis convaincue, tout est possible, du moment qu'on a un plan, des dates et de la discipline. Pour ma part, cette nouvelle année sera celle du changement. Si ça vous intéresse, envoyez-moi votre adresse mail en message privé sur Instagram. Promis, je ne demanderai pas vos datas à un annonceur. Et promis aussi, ça ne sera pas une énième newsletter hebdomadaire ou quotidienne. J'ai juste envie de partager avec vous une petite série de quelques mots sur mes évolutions, sur l'évolution de Réel et sur mes réflexions actuelles. Maintenant, je passe à l'introduction de ma première invitée de 2020. Au programme, un sujet qui me passionne tant il est vecteur de liberté, les femmes et l'argent. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis très impliquée dans la formation à HEC Entrepreneur. J'en suis sortie saine et sauve et diplômée en 2012, et depuis j'essaye de rendre du mieux que je le peux à cette belle formation en m'impliquant dans sa pédagogie. C'est donc à HEC que j'ai rencontré la femme que vous allez entendre dans cet épisode. Et honnêtement, elle m'a épatée. C'est super rare d'entendre un discours sur les femmes et l'argent, chiffré, argumenté et surtout concret. Après un passage en cabinet ministériel puis à Harvard, elle fait le choix de servir l'intérêt général dans le secteur privé en investissant dans des entreprises à impact via son family office, qu'elle dirige toujours aujourd'hui. Elle est également au board d'Angel Square FinTech, dont on parle pendant l'épisode, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et elle est spécialiste des sujets de genre. Elle figure dans le classement des business angels français les plus actifs. Et honnêtement, vous allez vous rendre compte à quel point c'est possible aujourd'hui d'être une business angel avec une force féminine. Et c'est ça qui m'a le plus impressionnée. Vous allez certainement faire le parallèle avec Chantal Baudron. Et d'ailleurs, elles se connaissent. Donc honnêtement, vraiment, c'est un épisode coup de cœur. Voilà, j'ai aimé chacun des épisodes que j'ai fait. Mais celui-ci me concerne particulièrement parce que l'investissement me concerne, l'entrepreneuriat me concerne. Et vraiment, je tiens à le signifier, de commencer l'année avec cet épisode, c'est important pour moi. Avec elle, on a notamment parlé de la diversité comme facteur clé de succès d'une entreprise, de l'impact positif dans le secteur de l'investissement, de maternité bubblegum toute parfaite sur Instagram qui peut faire beaucoup de mal aux mamans, du collectif Sista qui bouge les lignes pour les femmes entrepreneurs, de sa vision de la femme dans notre société, et de sororité. Comme je vous le disais, je suis hyper heureuse de commencer l'année avec cet épisode. Encore une fois, un immense merci pour vos écoutes qui augmentent. Alors oui, j'ai été hyper impressionnée pendant les vacances parce qu'en fait, j'ai constaté que les épisodes ont été réécoutés, que les audiences ont augmenté pendant les vacances. Donc vraiment, un immense merci du fond du cœur. Je vous souhaite une super belle année encore une fois. Merci d'être là, merci d'être vous. Merci pour vos messages, votre soutien et très très bonne écoute avec la formidable Valentine de l'Astérie. Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir et je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter autant personnellement que professionnellement.
Mais tout d'abord, merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et de faire suite à tant d'invités géniaux. Donc, merci à toi.
Mais non, mais attends, ta place est là, donc ça me paraît logique.
Alors, écoute, me présenter personnellement. Alors, je vais commencer par mes petites obsessions.
Ouais.
Alors, j'ai des obsessions diverses et variées. Tout ce qui est à base de pistache et de sucre. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Okay. C'est vrai, vraiment, tout ce qui est à base de pistache. J'ai mis carrément en passant par la religieuse. J'ai une obsession pour la pistache.
D'accord.
J'ai une obsession pour le dessinateur Vooch, que j'adore.
Ouais, j'adore aussi.
Ouais, j'ai une obsession pour l'odeur de la lavande, celle des vieux livres. Je peux passer mon temps dans une bibliothèque à renifler les vieux livres, chose qui paraît toujours très étrange aux gens. J'ai une passion pour Romain Gary. qui est un auteur que j'adore, extraordinaire. Vraiment, j'engage tous ceux qui ne l'ont pas lu à lire Minima, La promesse de l'aube et La nuit sera calme, qui est un livre extraordinaire. J'ai une passion pour les yeux bleus de mon mari, ils sont magnifiques, chatoyants. Pour la cellulite de mon petit garçon, qui est une cellulite des endroits totalement improbables.
Il a quel âge ?
8 mois. Ouais. Ça fait partie de mes grandes passions. J'ai des passions tout à fait inavouables. J'ai une passion pour Taylor Swift. Je ne devrais même pas dire ça. Alors,
pourquoi ? Moi, je l'adore.
J'adore cette
fille. Elle est géniale. J'ai une... la pêche.
Ah, elle est top. Et puis, très intéressant son parcours en tant que femme dans cette industrie. Très intéressant ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu. C'est extrêmement intéressant le parcours de cette jeune femme qui est dans la lumière depuis qu'elle a 13 ans.
Je regarderai.
Okay. J'ai une passion pour le Daily Mail Online, qui paraît toujours une plaisanterie. Les gens se moquent, ils ont raison. La presse, bien sûr, je peux passer ma vie à lire des journaux.
J'ai une passion. C'est un point commun.
Ouais, il y en a d'autres. J'ai une passion pour le féminisme et les auteurs féministes, et notamment, j'imagine qu'on va y revenir pour le Quantitative Feminism d'Iris Bonnet, que j'engage aussi tout le monde à lire. C'est extraordinaire. J'ai une passion pour la série Friends, comme
on en parlait tout à l'heure.
Une passion, encore une fois, pour les gender studies, ça c'est évident. Une passion pour le challenge, de manière générale. Ça fait beaucoup de passion, mais en tout cas beaucoup d'intérêt très fort. Je ne sais pas si j'aime trop le mot passion. En tout cas, c'est un petit panorama de ce que je suis. À la fois personnellement et professionnellement, même
c'est
si
riche. Mais j'adore cette présentation, tu vois, ça change un peu, ça change de l'ordinaire et merci beaucoup parce que c'est détonnant. Mais malgré tout, revenons un petit peu à ce que tu fais au quotidien et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, notamment une business angel.
Oui.
Je vais te laisser, si ça ne t'embête pas, raconter un peu ton parcours.
Prie. Moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir voulu faire autre chose que quelque chose qui serve l'intérêt général. Jamais. Alors, c'est un mot un peu pompeux, mais à l'époque déjà, gamine, pour moi, c'était évident que je ne pouvais rien... Enfin, qu'il n'y avait rien d'autre à faire que quelque chose qui aide un peu les gens. J'ai pensé longtemps que ça serait la politique, donc j'ai commencé ma carrière dans la com du politique, ce qui était assez original, mais c'était ça que je voulais faire, parce que j'adore écrire, je voulais être payée pour écrire. Et donc j'avais trouvé une sphère qui me permette de réunir et la politique et l'écriture, les médias que j'adore aussi. Donc j'étais communicante politique en cabinet ministériel, en collectivité, en agence, donc ça a été
c'était
une vraie passion.
C'était à quelle époque environ ?
À l'époque du gouvernement Sarkozy.
D'accord.
J'ai fait ce métier, j'en suis sortie assez abîmée, je dois dire, 28 ans, parce que...
Ça abîme.
Oui, et surtout tu réalises, ça c'est très dur comme réalisation, quand ce qui te guide modestement, parce que tout ça reste évidemment sans hypertrophie de soi, tu fais ce que tu peux, c'est une petite pierre à l'édifice, mais quand c'est ça ton objectif et que tu te rends compte que, un, dans une démocratie qui fonctionne normalement, ton travail ne devrait pas exister, parce que ton boulot c'est quand même de filtrer les informations à la presse. Quand t'aimes la presse, c'est une schizophrénie pas toujours évidente. Donc un, quand tu te rends compte dans une démocratie qui fonctionne, ton job devrait pas exister, c'est dur. Et deuxièmement, quand tu te rends compte que tes modestes efforts et ta modeste contribution a pu être plus négative que positive. Ce qui a été le cas pour moi, je le pense, même si encore une fois, il faut pas s'hypertrophier ni dans le bien ni dans le mal, dans l'impact qu'on a. Donc j'en suis sortie assez triste et je suis partie vivre aux États-Unis plusieurs années. Et là, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert les social business, les modèles hybrides, l'impact venture, l'impact de la philanthropie, venture philanthropie, l'impact investing. Et je me suis dit, ce qui n'était pas français du tout à l'époque, et ce qui commence à peine à le devenir, je me suis dit, tiens, le secteur privé peut aussi contribuer positivement. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, en rentrant en France, j'ai décidé de faire ça et de voir comment, à partir du secteur privé, donc en l'occurrence de l'investissement, je pouvais quand même avoir modestement une contribution positive. Et donc, depuis 5 ans, je dirige les investissements d'un family office qui est très engagé en impact investing, qui s'appelle FIBLAC. Et donc, notre objectif à 10 ans, c'est de faire du full impact, de respecter des valeurs humaines... qui sont finalement hyper simples, juste se comporter bien, travailler avec des gens bien, des gens avec qui on est heureux de partager une aventure, des gens qui... Oui, là, le respect de la parole donnée, des petites choses qui paraissent assez élémentaires, mais qui en fait sont des valeurs qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'était effectivement les questions de diversité et de... et de mixité, puisque c'était super important pour moi de soutenir aussi la cause des femmes dans, dans ce travail-là, puisque je suis, et ça n'est pas du tout un gros mot, une féministe engagée. Donc j'ai aujourd'hui 78% de mes participations qui ont au moins une femme cofondatrice ou fondatrice.
C'est beau. La première fois que tu as investi dans une boîte, en fait, d'abord, c'était quoi comme type de, d'entreprise ? Et qu'est-ce que ça fait quand on investit la première fois dans une boîte ?
Alors, ça, elle s'appelait Télégraphique. Elle est dirigée par une femme extraordinaire qui s'appelle Carole. C'est de la Silver Tech, c'est-à-dire que c'est une boîte qui œuvre au maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes âgées en permettant de monitorer les mouvements atypiques et inquiétants. Et ensuite connecter la plateforme aux aidants qui peuvent envoyer au domicile de la personne âgée des personnes vérifier que tout va bien. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, tu te dis que d'autres personnes ont des rêves et des aspirations méritoires, immenses, importantes, et que toi, ta petite contribution, c'est de les aider au mieux de tes capacités à que leur projet réussisse. Donc tu te sens, c'est un sentiment de, déjà c'est très agréable, puisque tu as le sentiment de participer à une aventure collective positive. C'est des devoirs, il faut aussi les aider. C'est aussi un sentiment d'impuissance parfois rageant, parce que tu sais que tu peux pas faire grand, enfin tu peux pas faire grand chose au-delà de ce qu'ils te demandent. Ton boulot, c'est une boîte à outils. Tu n'es pas un faiseur. Donc c'est un mélange de tout ça, mais c'est partager des parcours brillants de gens incroyables. Donc très honnêtement, c'était une impression très positive pour moi.
Est-ce que tu peux me parler un peu de Angel Square? Puisque tu es très active dedans. Donc, est-ce que tu peux le définir ça et puis nous raconter un peu ton, ton histoire au sein de Angel Square ?
Angel Square, c'est une plateforme de mise en relation très qualitative entre des entrepreneurs de grands talents qui cherchent des investisseurs et des investisseurs qui cherchent de bons entrepreneurs. Et l'originalité d'Angel Square, c'est d'avoir un petit peu dématérialisé et disrupté ce système de mise en relation qui pouvait être un peu, qui peut toujours d'ailleurs parfois être assez difficile pour les entrepreneurs. Et de mettre en relation des dossiers qui correspondent aux bons investisseurs et les bons investisseurs en face des bons dossiers. Et là où je les apprécie particulièrement, déjà, c'est un des premiers financeurs en seed de femmes en France aujourd'hui. Donc c'est très important de le rappeler. Je crois qu'ils sont à 30% de start-up dirigées ou co-dirigées par les femmes, ce qui est énorme. Et ensuite, ce sont des gens qui se posent la question de la manière dont la société avance suffisamment pour créer un club sur l'impact, notamment, qui est à ses débuts. J'ai le plaisir d'être au board. Donc, j'y trouve une communauté de gens dynamiques, avec des valeurs assez alignées avec les miennes.
Vous investissez au sein de cet organisme, les tickets ils sont de 100 à 150 000 euros ou un peu moins.
Alors c'est variable, ça dépend si tu investis seul, tu peux très bien être un des seuls investisseurs de la plateforme à mettre de l'argent. Les tickets dépendent aussi du tour de table, ou alors si c'est ce qu'on appelle le club deal, qui prend la totalité du ticket. Donc c'est tout à fait variable.
D'accord, ok.
Mais globalement oui, c'est des tickets de Business Angels plutôt importants chez Angel Square. À vérifier avec eux, parce que je n'ai pas une, vue à 360 sur la totalité de leurs activités. Mais oui, on est plutôt sur des tickets assez conséquents.
Et toi, aujourd'hui, à titre personnel, parce que tu fais plein de choses, mais tu as investi au total dans combien d'entreprises à peu près ?
Oh là, une dizaine, je dirais.
D'accord.
Oui, une dizaine sur des tickets en moyenne, je dirais, aux alentours de 200 000 euros.
Et tu t'imposes une rythmie ou pas du tout ?
Aucune.
Non.
Surtout pas.
Au feeling.
C'est pas au feeling, c'est aussi l'opportunité. Est-ce que la valorisation est raisonnable ? Est-ce que j'ai un coup de cœur pour l'équipe ? Est-ce que c'est un sujet où j'ai le sentiment que je vais apporter quelque chose ? Moi, je suis la première, quand un entrepreneur vient me voir, à lui dire « Écoutez, désolé, mais sur votre sujet, je suis nulle, quoi. » Parce qu'évidemment, personne ne peut être bon en tout. Il y a des secteurs, moi, qui ne me parlent pas spécialement, et de certains secteurs sur lesquels je suis convaincue que je ne vais pas être de la smart money, que mon apport va être à la marge. Or, n'apporter que de l'argent, finalement, alors tu me diras, les entrepreneurs sont très contents d'en avoir, mais il y a aussi beaucoup d'argent sur le marché, les bons dossiers peuvent se permettre largement d'aller chercher ce qu'on appelle de la smart money. Et moi, il y a des dossiers sur lesquels, très honnêtement, non, je suis nulle.
Alors, du coup, il y a deux questions dans ma question, mais c'est quels sont tes critères d'investissement ? Première chose, et puis après, sur quoi tu te considères smart money, tu vois, quels sont tes domaines de prédilection ?
Alors, comme tout le monde, je vais te faire une réponse tarte à la crème, l'équipe, évidemment, puisque de toute façon, bien souvent, t'as que ça, et la boîte a peu de KPIs à l'échelle de la vie d'une entreprise. Par rapport en small cap, mid cap, évidemment, t'as très peu de données tangibles, donc c'est souvent, simplement c'est l'équipe. Est-ce que ces gens-là te portent dans leur vision, et est-ce que leur vision est suffisamment pragmatique pour leur permettre le pivot si nécessaire ? cette espèce d'équation hyper difficile, de potion magique, je te dis un mélange de vision et de pragmatisme. Mmh. Rien de pire qu'un quelqu'un qui n'a pas de vision et rien de pire que quelqu'un qui en a une tellement forte que il n'accepte pas d'entendre les signaux du marché. Donc un, l'équipe. Deux, la smart money. Alors, elle peut être de deux ordres. Soit sur les aspects de personnalité, tu sens que parce que ça va bien fitter avec l'entrepreneur, tu vas pouvoir l'accompagner humainement. Ça, ouais. Alors là, c'est encore une fois, c'est pas, ça dépend vraiment de la personnalité qu'on a en face de soi. C'est une rencontre. Et deuxièmement, en termes de secteur, nous, puisqu'on est une équipe, on est très compétent sur les sujets InsurTech, FinTech, puisque c'est notre cœur de métier à l'origine, l'assurance. Donc tout ce qui est connexe. Sur les secteurs qui peuvent nous intéresser. Toutes les verticales à impact nous intéressent, particulièrement ce qui est lié à l'agritech, parce que là aussi, on a une grosse activité viticole en biodynamie, donc on est assez bon sur les sujets d'agritech. Les sujets médias, qui moi me passionnent totalement. Je suis d'ailleurs investisseur dans un média que j'aime énormément.
Ah bon, lequel ?
Madines.
Ah !
Voilà. Les sujets, ce qu'on appelle les femtech, je n'en ai encore pas fait une seule, et j'aimerais beaucoup.
Les femmes ?
Les technologies liées aux femmes, voilà, liées au bien-être féminin. Et ensuite, les sujets où il y a une grosse partie de communication, puisqu'encore une fois, c'était mon sujet. Alors que ce soit en termes de brand ou que ce soit moins... Alors, marketing digital, bien sûr, mais ça, après, c'est très technique. Mais quand il s'agit de vendre une marque avec un discours de marque, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé.
T'es contente pour le moment de tes investissements ?
Très.
Je suis toujours curieuse de savoir, t'as déjà eu des cas de conscience réelle au sens un feeling où il faut que tu réveilles vraiment l'entrepreneur où tu sens que si t'avais pas été là, dans un conseil, dans du coaching ou dans une discussion, tu sens que ma question elle est un peu compliquée, mais c'est qu'est-ce qui est fondamental pour un investisseur en fait ? C'est quoi un bon investisseur à ton niveau, avec bien entendu tout ce que tu viens de décrire auparavant, tes secteurs d'activité, tes tickets ? C'est quoi un bon investisseur en fait ?
Vaste question, il faudrait poser la question à des entrepreneurs. Pour moi, c'est d'être une boîte à outils qui sait rester à sa place, c'est-à-dire quand ils ont besoin de toi. Tu ouvres la boîte à outils, tu leur donnes tout ce que tu peux leur donner, que ce soit du contact, du réseau, un financement supplémentaire si nécessaire, une opinion quand elle t'est demandée. Mais c'est aussi de savoir rester à sa place. Encore une fois, c'est eux qui mènent leur barque. Donc toi, tu les accompagnes sur le chemin en étant là quand ils te le demandent. Donc c'est aussi de l'humilité et savoir être là, encore une fois, à leur demande. Donc c'est très frustrant le boulot d'investisseur, moi je trouve souvent. Et à la fois, c'est très gratifiant quand tu vois les boîtes marcher, mais de te dire, pour répondre à ta première question, parce que je suis une femme, donc je réponds aux questions qu'on me pose, qui est un tort, quels sont les moments, quels sont les cas où je me suis dit, mon Dieu, c'est génial, j'ai été là, non, il faudrait leur demander. Okay. Vraiment, ouais, je serais pas capable de te répondre à cette question. J'espère qu'il y en a.
Je me demande si on devrait pas faire des feedbacks avec les boîtes dans lesquelles on investit. Peut-être que c'est nécessaire à partir d'un certain seuil, hein, encore une fois, mais c'est souvent dans le sens, qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'investisseur, tu vois, mais parfois je me dis, mais bon, bah, finalement, à partir du moment où on a dans notre portefeuille 10 ou 15 boîtes ou 20 boîtes.
Nous, on leur demande systématiquement, quand on décide d'investir, j'envoie une letter of intent, et je leur demande systématiquement de me faire la même chose à l'inverse, c'est-à-dire de m'écrire. Oui, moi aussi, une love letter en me disant voilà pourquoi vous. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir sans savoir pourquoi c'est nous qui veulent au capital, ça veut dire que le match n'est pas bon, ça veut dire qu'on va les frustrer et qu'on ne va pas être la bonne boîte à outils pour eux ou qu'on ne va pas pouvoir la mettre à profit, c'est dommage. Donc moi, je pense que c'est une relation qui va très clairement dans les deux sens. Eux aussi doivent avoir envie de nous avoir, nous, particulièrement, au capital. C'est vraiment une rencontre.
Est-ce que tu penses qu'il y a une inégalité face au financement ? Est-ce que si on fait pas partie de filières particulières, on a un accès égal à l'investissement ?
Ah non, mais c'est pas. Je pense que l'accès au capital est inégal. Il est inégal. C'est factuel. On peut ne pas l'aimer. On peut en être navré, mais il y a pas de question sur cette réalité. Alors, bien sûr que les inégalités de financement sont réelles. Ils sont genrés, hommes-femmes. Les femmes ont 30%.
Et pas que aussi.
Ils sont genrés. Les femmes ont 30% de chances en moins d'accéder au capital. Ça, c'est des données qu'on a mesurées. Je suis secrétaire générale d'un collectif qui s'appelle Sista. On a réalisé un baromètre avec le BCG sur le sujet. Donc là-dessus, je donne des chiffres que j'ai. Mais il est aussi évident que les études que tu as faites, l'endroit où tu habites, ton milieu socio-professionnel joue énormément. Je, Je ne crois pas que l'entrepreneuriat soit méritocratique. Je le crois pas.
D'accord.
Ce n'est pas mon observation.
D'accord.
Je suis navrée. Je non, sais que je beaucoup
d'accord.
de gens
en tout cas,
sont
ça
convaincus.
Plus. Ça l'a peut-être été à une époque, mais ça, aujourd'hui, ça l'est plus.
Je ne sais pas si ça l'a été un jour. Je ne sais pas quand ça l'a été. En tout cas, aujourd'hui, ça, c'est une croyance personnelle. Je ne le crois pas. Mmh. Et je trouve ça extrêmement inquiétant pour la société au sens global du terme. Mmh. Aujourd'hui, les innovations d'aujourd'hui, qui sont donc le mainstream de demain, sont pensées à 95% dans le monde et financées pour et par des hommes blancs. Mm. Ça, c'est factuel. Mm. Alors, est-ce que c'est méritocratique ? Est-ce que l'homme blanc est né avec un gène du succès, de l'entrepreneuriat et de l'innovation ? Je laisse tes auditeurs en décider, moi je le crois pas.
Alors, on va tout de suite enchaîner sur Sista.
Avec plaisir.
Parce que tu m'as ouvert la voie. J'ai deux questions, il y en a plusieurs. C'est déjà définition de Sista, parce que tout le monde ne connaît pas. Et d'ailleurs, je suis étonnée que ce soit pas suffisamment connu, parce que je trouve que la démarche est incroyable.
On est jeune.
Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'ai souhaité te recevoir dans mon podcast, c'est pour que t'en parles. Ben voilà, définition, mais aussi comment on fait pour y rentrer, qu'est-ce qui se passe concrètement.
Alors, Sista, aujourd'hui, que je dirige avec Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, Tatiana Jama, la fondatrice de Levia, qui sont deux entrepreneuses extraordinaires, c'est un collectif. C'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs qui ont envie de créer une génération de leaders dans la tech plus diverse qu'aujourd'hui. Alors, on a commencé par les femmes, mais le sujet ne s'arrête pas là. C'est pour ça que Sista s'appelle Sista. C'est un emprunt bien réfléchi. Et pour ça, on a commencé par décider d'adresser un sujet qui n'était pas adressé en France, qui est l'aspect systémique des inégalités de financement. C'est un mot un peu barbare, je m'explique. Il y a beaucoup et de plus en plus de programmes à destination des femmes. On leur dit, dans l'entreprise, il faut négocier votre salaire. Aux jeunes femmes qui sortent d'école, il faut monter des entreprises. Demandez, allez-y, sortez de votre zone de confort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Bon, il faut faire très attention avec l'empowerment. Parce que l'empowerment, quand ce sont les seuls programmes financés et qu'on se limite à ça, ça devient très rapidement un vecteur de culpabilisation de la femme qui, inconsciemment, entend quoi ? Si je n'ai pas, si les choses sont inégales pour moi, alors c'est de ma faute, c'est parce que je ne réclame pas assez. Or, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'en réalité, la première cause stand-alone monolithique d'inégalité de financement aux États-Unis, c'est les biais des investisseurs. À peu près 40% des inégalités de financement sont dues aux biais des investisseurs. Les 60% restants ne sont pas monolithiques, c'est plein de petits sujets différents. C'est peut-être que les femmes, effectivement, vont réclamer moins, mais c'est aussi qu'elles vont aller dans des verticales qui nécessitent moins d'argent, etc. etc. Donc c'est plein de micro-raisons. La raison monolithique, les biais des investisseurs, ça n'avait jamais été adressé. Qu'est-ce que c'est un biais d'un investisseur ? Le biais inconscient, l'unconscious bias, c'est le produit d'un conditionnement social qu'on a tous, toi, moi en tant que femme, toi en tant que femme, les hommes, tout le monde, qui fait que cognitivement, ton cerveau ne réagit pas de la même manière avec devant lui un homme blanc, une femme blanche, une femme noire, un homme noir, un handicapé, une personne âgée, une personne que tu identifies comme LGBTQI+, etc., etc. Ces biais inconscients-là sont irrationnels, biaisent nos décisions d'investissement, on ne s'en rend pas compte. C'est une grande partie de l'explication pourquoi les femmes lèvent moins que les hommes. Donc, nous, on s'est dit avec Sista, bon, ok, on n'arrête pas de dire aux femmes, montez des boîtes, si c'est pour que l'environnement qui les accueille ne soit pas un tout petit peu plus friendly, ça sert à rien. Et donc, on a commencé à travailler sur, justement, le système. Donc, c'est pour ça que je parle d'une approche systémique, les investisseurs. Et donc, on a créé une charte en co-création avec le Conseil National du Numérique, France Digital et plusieurs fonds de venture, qui est une boîte à outils de bonne pratique pour aider les investisseurs à contourner les biais inconscients.
Il y a combien de personnes qui ont signé la charte ?
Plus de 67 fonds d'investissement français à ce jour.
Et il y a combien de fonds d'investissement en France ?
Alors ça, ce serait difficile à dire, mais en tout cas en venture, je pense qu'on en a la très très grande majorité.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Ah oui, oui. On a les gros players. La BPI est signataire, bien sûr.
Ouais, j'ai vu.
Donc, c'est pour l'instant en tout cas un vrai succès, mais c'était très important pour nous de dire aux femmes, bon, on vous entendez beaucoup de messages sur allez-y, nous on vous envoie un message, vous pouvez y aller. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Bah ouais.
Et il faut savoir aussi avec l'empowerment, parce que j'entends beaucoup de choses en France sur l'empowerment, c'est très bien. Les Américains en reviennent un tout petit peu, puisque maintenant des études de plus en plus sortent démontrant que les programmes d'empowerment sont au mieux inutiles, au pire contre-productif. Donc le lean-in, le fameux lean-in de Sheryl Sandberg qui consiste à dire aux femmes allez-y, c'est très bien. Maintenant, dans le bouquin de Sheryl Sandberg, on oublie aussi de noter tout ce qu'elle dit sur les inégalités systémiques, les raisons pour lesquelles le système n'accueille pas les femmes comme il accueille les hommes.
Il faut faire attention parce que si tu ne fais que de l'empowerment et que tu ne travailles pas sur le système, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, une étude d'Harvard qui est sortie il n'y a pas longtemps démontre exactement ça. Dans une entreprise américaine, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui bénéficiait d'un coaching d'empowerment, l'autre qui n'en bénéficiait pas. Et au bout, je crois, d'un an ou deux, ils ont montré que les promotions, les inégalités salariales étaient exactement les mêmes. Et que pire, dans le groupe qui avait été « empowered », comme on dit, leur entourage, l'entourage immédiat de ces femmes, pensait que, puisqu'elles avaient bénéficié de ce programme de coaching, c'est donc qu'elles étaient responsables des inégalités. C'est quand même extraordinaire.
Incroyable.
Donc, à faire très attention sur l'empowerment. Mmh. C'est à double tranchant. Mmh, mmh, mmh. Et pour moi, c'est très important. Il y a énormément d'associations géniales qui font ça. Mais nous, on a voulu jouer notre modeste rôle vers une approche systémique pour rééquilibrer un petit peu tout ça et pas simplement laisser un seul discours qui consiste à dire aux femmes « Bon, bah, tout dépend de vous. » Ah, c'est pas vrai.
T'as des, je sais pas, des chiffres ou des données à me communiquer public sur les actions de Sista. Mmh.
Donc, juste pour préciser, donner des exemples très concrets de bien conscient que tes auditeurs comprennent. Ouais. Ça veut dire que quand tu es une femme aujourd'hui et que tu pitches, ce qu'on appelle pitcher, des investisseurs pour leur présenter ton projet et aller chercher des fonds quand tu es entrepreneuse, à CV égal, pitch égal, présentation strictement égale, les investisseurs préféreront toujours une voix masculine. Le physique de la femme ne joue pas de la même manière que le physique de l'homme. Mmh. Le CV de la femme n'est pas analysé de la même manière que le CV de l'homme. Un CV féminin qui n'a pas de compétences tech est beaucoup plus sévèrement jugé qu'un CV masculin qui a aussi peu de compétences tech. Un CV féminin avec des compétences tech sera beaucoup plus remis en question pendant le pitch qu'un CV masculin. Les investisseurs ne posent pas les mêmes questions aux hommes et aux femmes. Mmh. Aux femmes, les questions de prevention oriented, c'est-à-dire, en gros, raconte-moi comment ta boîte peut se planter, parle-moi des risques de trésorerie, des risques d'exécution, du churn potentiel, etc. Et aux hommes, les questions dites de promotion oriented, raconte-moi comment tu vas me faire gagner beaucoup d'argent.
Fais-moi rêver.
Et ça, c'est une découverte qui est assez récente, qui date des années 80-90 en psychosociaux. Aux États-Unis encore, qui démontre qu'en fait, ce n'est pas le fait d'avoir une femme ou un homme qui fait que tu, en l'occurrence, que tu vas investir moins, c'est le fait que ton biais cognitif immédiat est d'associer succès à l'homme, risque à la femme. Et quand ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont posé à des hommes les questions posées d'habitude aux femmes, alors les hommes subissaient les mêmes inégalités de financement que les femmes à leur place. Donc ça, c'est un message très positif, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, si on aide les investisseurs à être conscients de ce type de biais, et que, deux, on aide les femmes à répondre de manière appropriée à ces questions un peu pièges, on arrive à diminuer le delta de manière colossale. Quand tu coaches les femmes, tu arrives à diminuer le delta de financement qui, à cause de ces questions différentes et de cette fois, tu arrives à le diminuer à x2, et théoriquement, en coachant les investisseurs, on devrait pouvoir faire disparaître le x2.
Donc en termes d'avancée,
Donc ça c'était sur les biais. Donc Sista, donc la charte, Sista a lancé ses premières inclusive hours au sein des fonds partenaires. Donc maintenant tous les mois, il y a des rencontres. Les fonds d'investissement français et parisiens, et pas que d'ailleurs, ouvrent leurs portes pour accueillir des entrepreneuses, les aider à cultiver un réseau, parce que les femmes ont moins de réseau que les hommes dans ce milieu, qui est un milieu essentiellement masculin. On va rappeler que au niveau du venture mondial, les femmes, c'est 7 ou 8% seulement des partners des fonds d'investissement mondiaux en venture. Donc c'est un milieu qui est essentiellement masculin. Donc il est très important pour nous qu'elles bénéficient d'un réseau, parce qu'il faut aussi savoir que quand tu bénéficies d'une intro par un ami ou une relation dans le fond, tes chances d'investissement sont multipliées par 13. Versus quand on envoie une bouteille à la mer par email, coucou, voilà mon projet. Donc ça c'est très important. On a lancé les Inclusive Hours le mois dernier, et c'est Edna chez 360 Partners qui s'en occupe. Je donne les prénoms, non pas parce que ce sont des femmes, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms de famille, que je ne veux pas les écorcher. Donc c'est Edna qui s'occupe de ça. On a également on a fusionné avec Paris VC Ladies, qui avait été lancé par Raphaël Duchemin chez Aster Capital, qui maintenant s'appelle Sista VC, qui est une communauté de femmes investisseurs en venture capital. Donc ça, c'est les premières avancées de Sista. La charte a été signée fin octobre, on est mi-décembre, on est plutôt très contente de notre feuille de route pour l'instant. Et plein de choses encore qui arrivent pour la nouvelle année.
Ah, c'est surprise.
Non, c'est pas surprise, on va accompagner nos fonds, on va faire en sorte maintenant qu'une fois qu'ils ont signé la charte, il y ait des rendez-vous annuels pour regarder un petit peu où en sont les métriques, puisque l'approche de Sista est très quanti. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même un objectif ambitieux, puisqu'on leur demande de doubler le nombre de femmes partners, le nombre de femmes dans les équipes d'investissement et le nombre de femmes dans leur portefeuille d'ici 2025. On leur demande de faire un x2 d'ici 2025, donc on doit aussi les accompagner. Et donc on va annoncer pas mal de partenariats.
Et combien de personnes dans le collectif ?
On doit être de femmes à l'origine fondatrices, de membres fondateurs, on doit être dans les 20-25. Et là, justement, ça fait partie aussi des choses qu'on va annoncer en 2020. Encore plus, on a plein de projets. Génial. Je reviendrai t'en parler.
Ouais, je veux qu'on en parle, mais d'autant que je suis intéressée par savoir comment on fait pour rentrer.
Alors, mais ça dépend comment. Alors, les fonds qui veulent signer, ben, ils nous écrivent un petit email et on discute D'accord. avec eux. Il y a une procédure d'adhésion à la charte assez balisée. Et on est en train de monter une communauté de femmes entrepreneurs. Rejoindre Sista VC, il faut mettre un petit email à Raphaël. Vous nous trouvez partout sur les réseaux sociaux, c'est assez facile.
Okay.
Donc, adhérer à Sista n'est pas difficile du tout, au
D'accord.
contraire.
Ok. L'appel est lancé.
Mm-hmm. Évidemment.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu plus sur ta vision aujourd'hui. Quel regard tu portes en fait sur ta vision de la femme dans l'économie française, on va dire, slash entrepreneuriat, slash salariat. Ce que tu sens en fait, tu vois, sur la place de la femme. En fait, je sais que la question est trop vaste, mais c'est pas grave. À brûle pour point comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les femmes aujourd'hui dans notre société française ? Je sais que c'est un peu
non,
vous avez 3 heures.
De pas du tout, mais honnêtement, non, en fait, c'est une question qui qu'on peut rendre très simple, sans caricaturer en plus. Mm. 95% des chefs d'État dans le monde sont des hommes. 95% des dirigeants des plus grosses, des 500 plus grandes entreprises mondiales sont des hommes. Voilà. Donc mondialement, la place de la femme aujourd'hui, c'est ça. Mm. Dans le CAC 40, nous n'avons aucune femme CEO, exécutive. Mm. Ça aussi, c'est une réalité. Les inégalités salariales, j'ai pas tellement besoin de revenir dessus, on les connaît. À temps de travail, poste égal, je crois qu'on est un peu plus de 10% encore aujourd'hui. Mmh. Si on considère que les inégalités de temps de travail sont des inégalités en tant que telles, on est plus alentour de 20%, je crois, à vérifier, mais mon avis.
Ah, t'es fou, hein ? Pété ou pas, elle est collector, ma yaourtière.
Ce truc-là, c'est... Bon, je sais plus, hein, mais si je le garde, c'est au cas où, quoi.
Tu vois ce vieil ordi cassé ? Eh ben, je peux pas le jeter. C'est grâce à lui que j'ai rencontré ta mère.
Si vous aussi, vous avez du mal à vous séparer d'un appareil qui ne marche plus, sachez que tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie se recycle en magasin et en déchetterie. C'est simple et utile pour l'environnement. Alors, trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger.
C'est ça. Ma vision, moi je te dis, j'ai une approche très quantique du sujet. J'aime bien avoir une approche dépassionnée de la question, désidéologisée et juste très factuelle. La place de la femme, c'est ça. Alors j'en suis désolée, mais les femmes sont encore les principales victimes de violences conjugales. Je ne nie pas l'existence des autres inégalités, parce qu'il y en a bien d'autres. On pourrait parler des inégalités entre les blancs et les minorités non blanches, entre les cisgenres, les transgenres, ça en est une autre. L'hétéronormativité et ceux qui, au contraire, défendent une vision de la société plus ouverte que ça. Je veux dire, les inégalités, elles sont réelles aujourd'hui, elles sont quantifiées partout. Donc, c'est pas tellement ma vision, c'est la réalité. J'aime bien le rappeler parce qu'on croit encore que ces sujets-là sont acquis. On nous dit souvent, mais vous vous battez pourquoi ? Tout ça, c'est réglé. Alors oui, merci, on a le droit de vote. Merci, on a le droit d'ouvrir des comptes bancaires. C'est très récent. On a le droit d'avorter aussi, c'est très récent. Et c'est un droit sans cesse remis en question en plus, dans la réalité des faits. Donc, c'est pas ma vision, c'est la réalité. Je ne t'attendais pas, je préfère répondre sous cet angle-là.
Non, mais t'as raison.
Parce que ma vision n'est pas intéressante en tant que telle, surtout qu'elle est adossée à cette observation-là.
Mais c'est ça que je voulais entendre de toute façon, tu vois, l'aspect macro. Après, j'ai lu dans une de tes interviews, je crois, au sujet de la diversité, où tu expliques qu'une entreprise dans laquelle il y a des femmes à part égale avec les hommes, les résultats sont meilleurs.
Oui. Les startups, alors notamment pour les startups, parce que le chiffre existe à tous les niveaux de développement d'entreprise. Pour les startups, une startup fondée ou cofondée par une femme rapporte 2,5 fois plus à ses investisseurs. 78 centimes sur $1 investi versus 31 centimes pour une startup fondée ou cofondée uniquement par des hommes. C'est la mixité et vecteur de performance. Je ne crois pas qu'il existe à ce jour, je n'en ai pas trouvé, d'études démontrant le contraire. Alors, je veux bien voir. Moi, j'adore les études. Je passe des centaines d'heures vraiment au bas mot à lire les études qui sortent parce que j'aime bien avoir un propos quantifié sur le sujet et que c'est ma manière à moi d'aborder les choses. Donc, quand tu parles à des investisseurs, il faut être factuel. Encore une fois, j'adore les discussions philosophiques sur le sujet, mais d'abord, un, je suis pas sûre d'être spécialement compétente. Il y a des chercheuses qui le sont beaucoup plus que moi. Et surtout, ce n'est pas un discours qui, de mon expérience, d'un point de vue pragmatique, porte dans le secteur qui est le mien. Donc, moi, je fais très attention à apporter des billes vraiment factuelles. La performance de la diversité existe à l'échelle du genre, elle existe à l'échelle du background ethnique, scolaire, de l'âge. Donc, toute diversité est bonne à prendre. Dans les entreprises, alors je peux donner d'autres chiffres, mais tu as, alors, c'est le BCG et les McKinsey qui sont très dynamiques sur ces questions, qui sortent tous les ans des études, notamment le rapport de McKinsey qui s'appelle Why Diversity Matters, qui est exceptionnel, qu'il faut lire. Je te chiffre ça très bien. Donc après, tu as pays par pays, etc. Mais tu as une augmentation importante de l'EBIT d'une entreprise dès que tu as un increment de plusieurs pourcents de gender diversity au sein du top management, par exemple. Il me semble que, alors en Angleterre, je pense que c'est 3,5 d'EBIT sur le rapport 2018 du BCG à vérifier. Je crois que c'est 3,5 d'EBIT supplémentaires pour 10% d'increment de gender dans le top management team des entreprises britanniques.
Increment, tu veux dire de présence de femmes,
d'augmentation, ouais. Exactement. Donc ça et ça, tu pourrais te le décliner, mais tu l'as surtout. Enfin, je veux dire, les entreprises diverses sont plus résilientes en temps de crise, etc., etc. La diversité aujourd'hui est une réalité économique. La performance de la diversité est une réalité économique. C'est irrationnel aujourd'hui de ne pas avoir de diversité dans ton portefeuille. Et encore une fois, quand je dis diversité, pas que genre. C'est irrationnel. Il faut juste le savoir.
Bien sûr.
Alors après, les gens vont te dire oui, mais on a un problème de vivier. D'accord, ça c'est un autre sujet. Mais simplement ce fait-là de se dire je n'ai que des hommes blancs dans mon portefeuille, ce n'est pas une décision d'investissement rationnelle.
Valentine, moi je t'ai rencontrée, j'avais déjà entendu parler de toi, mais je t'ai rencontrée vraiment, à HEC, lors d'une conférence avec Marie-Claire Capobianco.
Absolument.
De la BNP Paribas.
Femme éminente.
Femme éminente qui a débloqué une ligne de crédit juste hallucinante pour l'entrepreneuriat féminin.
Absolument.
Je crois plusieurs milliards. En tout cas, j'étais écoutée, ta prestation m'a beaucoup plu et tu as eu après des questions dans le public qui étaient intéressantes parce que c'était la génération qui était juste en dessous de nous, je crois. Enfin à peu près,
absolument.
Tu vois, parce qu'elles ont quoi ? Elles ont 20 et quelques.
27, 28, je crois.
Et il y a une jeune fille qui t'a dit bon, alors OK, c'est cool tout ça. Mais je l'ai trouvée très mignonne d'ailleurs. Parce qu'elle dit ouais, mais moi quand j'envoie des messages sur LinkedIn, la plupart des gens, c'est des hommes qui me répondent. Je sais pas si tu te souviens de cette question, mais
très
moi
bien.
Ça m'a marqué parce que en parallèle, je fais des parallèles puisque j'interviewe pas mal de gens brillants. Et je m'interroge en ce moment sur la notion de sororité.
Vaste sujet.
Alors, qui est très, très utilisé aujourd'hui, qui est très médiatisé, on va dire ça comme ça. Mais moi, je cherche à savoir ce que concrètement ça veut dire. Et pour l'avoir vécu dans ma carrière, j'ai souvent eu affaire à des femmes, en fait. Et j'ai constaté que la solidarité masculine n'avait pas d'équivalent réel aujourd'hui entre femmes.
Oui, alors.
Alors, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais en tout cas, me concernant, j'ai pas vu d'équivalent.
Il y a une réponse macro et une réponse micro. Alors, la réponse micro qu'on te fait souvent, et moi qui m'agace un peu, je dois dire, c'est le oh là là, les femmes sont des garces entre elles. Fermez les guillemets. Ou alors, ouvrez les guillemets, les femmes qui te disent ah non, mais moi, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles.
Ouais.
Fermez les guillemets. Ah, je m'entends beaucoup mieux avec les garçons. Fermez les guillemets. Bon, voilà. Ce qui individuellement, plus je pense, est sincère et elles doivent le penser puisqu'elles le disent. Moi, je voudrais mettre deux secondes un éclairage macro en reprenant le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. 50% de l'humanité, nous les femmes, nous partageons 5% des postes de pouvoir à la tête des États et à la tête des grandes entreprises. C'est une réalité. Comment veux-tu que l'ambiance soit aussi bonne quand on est 50% à se partager 5% des postes versus 50% du reste de l'humanité qui s'en partage 95%? Il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour se rendre compte qu'effectivement l'ambiance est vachement plus sympa. On a beaucoup plus envie d'aller se prendre un petit verre à la fin du boulot, tu vois, de fumer un petit cigare et de se taper dans la main. Non, mais sérieusement. La compétition entre femmes par rapport aux postes disponibles, évidemment qu'elle est importante.
Ouais.
Évidemment.
Ouais.
Donc, si tu veux, il faut mettre ça en relation aussi. Encore une fois, avec la réalité systémique des choses. Tu as beaucoup de femmes qui ont pensé, et bien souvent, il y a certaines de plus en plus, alors de moins en moins aujourd'hui, mais à plus forte raison il y a quelques années, que quand elles aidaient d'autres femmes, il y aurait moins de place pour elles. Parce que de facto, il y avait une place. Et durement acquise. C'est un petit peu le syndrome du happy survivor, c'est-à-dire la femme qui a réussi, en général un boulet au pied, qu'elle en ait conscience ou pas, qui a couru un marathon, un boulet au pied, à côté de mecs qui, eux, avaient les mains et les pieds totalement libres, qui est arrivé au bout, qui monte sur le podium, et à qui on explique que non seulement il faut aider les autres là-bas, qui ont souvent encore parfois un autre boulet, quand je dis boulet, je parle conditionnement, je parle difficulté, inégalité d'accès, etc., etc. Et tu lui dis qu'en plus de ça, maintenant il va falloir qu'elle retire son boulet, mais t'as certaines femmes qui ont l'impression que ça diminue leur propre mérite. Mmh. Donc il y a quand même aussi, je pense, un travail collectif à faire sur qu'est-ce que ça veut dire d'aider d'autres femmes aujourd'hui, qu'est-ce que ça voulait dire pour elles à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire pour elles aujourd'hui, alors que pour le coup, il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent, même si, attention aussi au triomphalisme, je suis désolée, j'ai pas envie d'être pessimiste sur ton podcast, mais le World Economic Forum nous explique quand même qu'à rythme constant, les inégalités, les gender inequalities, il y en a quand même encore pour 250 ans. Hein ?
Sympa.
À l'échelle du monde, 250 ans. Dans l'entrepreneuriat français, d'après nos calculs, les calculs Sista BCG, la parité c'est en 2090. Hein ? Donc, si tu veux, donc il faut aussi, par rapport à ces générations de femmes qui avaient tellement peu de postes disponibles, que les consciences fassent leur chemin un petit peu. Donc, la sororité ne veut pas dire la même chose à l'époque que ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Et là aussi, j'aimerais rajouter quelque chose de culturel. Il faut se rappeler aussi ce que c'est que la sociabilisation des femmes en France. Si tu regardes, quand les femmes, notamment je pense au XVIIIe siècle, parce que c'est vraiment c'est l'époque des salons, c'est une véritable une sociabilité qui était beaucoup plus mixte qu'aux États-Unis.
C'est vrai.
Les femmes aux États-Unis, même tu le regardes dans les vieux classiques, tu lis
Où t'en
emporte le vent, pardon.
Elles se réunissaient entre elles, c'est
évidemment,
ça que tu veux dire, oui.
Elles étaient totalement séparées. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas rare de voir des hordes de mecs et des hordes de nanas sortir séparément. Les sexes ont une vie, les genres, pardon. Les genres ont des vies indépendantes socialement. Hein. Donc, tu les voyais dans leur petit coin. Il y avait une sociabilité féminine. En France, on était beaucoup plus mélangés. Ça existait, attention, mais on était beaucoup plus mélangés. Et les femmes organisaient leur temps de parole dans une compétition de femme à femme pour l'attention masculine. Donc, on n'a pas du tout non plus...
C'est intéressant ce que tu dis.
On n'a pas du tout non plus la même histoire de la sociabilité. Il faudra en parler avec des sociologues spécialistes. Ça serait intéressant de voir ce qu'elles en disent. Mais moi, j'ai fait un peu d'histoire. J'ai eu cette chance. Et c'est vrai que quand tu regardes ça, ça ne sort pas de nulle part non plus. Donc, les Américaines ont plus cette culture de l'entraide. Même si, attention, quand tu regardes encore une fois les chiffres du marché du travail américain, les chiffres des inégalités femmes-hommes, elles ne sont pas mieux loties que nous du tout. Hein. Même sur certaines verticales,
bien sûr,
bien pire que nous. Donc voilà, mais en termes de culture, la sororité, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça infuse. Mais oui, je te rejoins. Le sexisme féminin, en tout cas, est un vrai sujet. Un sujet dont on ne parle pas du tout, un sujet totalement tabou. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup à faire face à du sexisme féminin, notamment avec Sista. Des femmes qui bloquaient.
C'est-à-dire ?
Des femmes, mais je te dis, qui ne voulaient pas, qui considéraient que c'était... qu'est-ce qu'on a eu ? C'est de la... Bon, alors, évidemment,
il n'y a pas un sujet d'âge ?
Non, alors, malheureusement, des femmes jeunes.
Ouais.
Non. Alors, il n'y a pas qu'un sujet d'âge qui nous disait... alors, mon préféré, c'était ce que vous faites, c'est l'équivalent moderne de la, c'est l'équivalent moderne de la promotion canapé.
Sympa.
Alors, non. ou alors, arrêtez de jouer vos victimes. Non, on ne joue pas nos victimes. On pointe du doigt un problème qui est un problème systémique. De penser, et c'est là que je trouve ça extraordinaire, les femmes qui pensent qu'elles vont y arriver totalement seules, qu'elles y sont arrivées totalement seules, sans parfois même prendre en compte souvent la violence systémique qu'elles ont subie, les modifications de comportement, les blessures parfois qu'elles ont dû vivre pour y arriver, et qui te regardent droit dans les yeux en te disant « ça dépend que de toi », je suis désolée, mais soit elles ont très mauvaise mémoire, elles veulent pas se souvenir, ou alors est-ce qu'elles, enfin, je veux dire, elles veulent quoi, que ce soit encore aussi difficile pour les autres.
C'est patriarcal, en fait.
Oui, c'est l'intégration de la violence patriarcale. Voilà, c'est exactement ça.
C'est-à-dire que je réagis à ton propos parce que j'ai fait l'interview de Camille Sfej, je sais pas si tu vois qui c'est.
Bien sûr.
Et Camille m'a dit à un moment une phrase qui m'a vraiment marquée en me disant, c'est le patriarcat qui nous a dit que pour être indépendante et épanouie, il fallait être comme des hommes, en fait. De ça, tu déduis beaucoup de choses, parce que la génération qui nous précède, ou même, c'est pas de leur faute, parce qu'il fallait qu'elles ouvrent aussi un champ et qu'elles commencent, et voilà, et il faut que chaque femme soit reconnaissante du travail fait par les précédentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens dans les réactions de femme à femme, encore, tu vois, des espèces de relents, de pas de masque, enfin, j'aime pas dire ça, mais de, c'est soit tu fais trop ta féministe, soit tu fais ta victime, soit, et on n'a pas encore, je trouve, le bon discours, qui s'inscrit uniquement dans la bienveillance, en fait. La notion de bienveillance, elle est utilisée à tort et à travers, mais de, d'écoute. Pour moi, c'est de l'écoute. Voilà.
Alors,
c'est pas de la bienveillance, c'est de l'écoute.
Elle a tout à fait raison. C'est l'intégration d'une violence patriarcale, absolument. Ce sont des mots qui font peur. Ce sont des mots qui, d'abord, ne sont pas des mots militants, qui sont des mots de chercheurs, des mots sociologiques. Donc, on les caricature à terme, à tort, en disant, oh là là, tout de suite, les grands mots de féministes. Non, ce sont des mots de sociologie. Oui, il y a une véritable intégration de la violence systémique patriarcale, ça c'est certain, par les femmes. Mais là où les choses sont très perverses, c'est que on ne te dit pas simplement il faut être un homme pour réussir, on te dit que le succès est associé à des comportements stéréotypically masculins. C'est ça, ouais, qu'on te dit.
C'est ça.
Et à côté de ça, tu es quand même prié de bien vouloir faire preuve de comportements stéréotypiquement féminins. Mmh. Hein, si tu as envie d'être vue comme une bonne épouse, une bonne mère, une femme séduisante, etc., etc. Donc l'injonction paradoxale pour la femme, elle est d'une grande difficulté. C'est vraiment les deux. Le succès, c'est stéréotypiquement féminin, masculin, et l'intérieur, la féminité, la douceur, forcément quelque chose qui doit être associé à des traits stéréotypiquement féminins. C'est très difficile de s'y retrouver. Et donc oui, je pense que tu as effectivement beaucoup de femmes qui ont intégré cette violence-là. Moi, j'ai découvert que j'étais une femme à 28 ans. Donc c'est très récent. Hein. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, je ne savais pas que j'étais une femme avant. Vraiment, je ne le savais pas du tout.
Mais parce qu'on a
j'ai
été
découvert très très tardivement et j'étais exactement comme ces femmes-là. J'étais... la sororité, c'était un mot que je n'avais jamais employé de ma vie. Je considérais qu'effectivement le succès était une compétition. J'avais aucune conscience de ce que ça voulait dire sociologiquement que d'être une femme, les difficultés devant moi. Je pensais que c'était personnel, que ça ne dépendait que de moi, que c'était donc ma faute.
Je sais. On a tout eu, je pense, voilà, même. Donc, je pense éveil.
J'ai beaucoup d'empathie pour les femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou n'ont pas peut-être fait ce chemin-là ou qui ne le feront peut-être jamais. C'est leur droit le plus strict. En revanche, et je reviens à la fin de ton propos, l'écoute et la bienveillance, y compris pour les femmes qui tiennent un autre discours que celui-là, ce qui est notre cas à nous, je pense que c'est aussi très très important.
Je vais te poser une question qui va... Tu réponds pas si t'as pas envie.
Je te dirai.
Si t'étais ministre de l'économie... Non, ou peut-être pas ministre de l'économie, mais en tout cas si... Alors je sais que t'as un parcours en politique, donc ça te met peut-être pas très à l'aise, mais je demande à mes invités généralement... Si tu avais deux grandes lignes directrices en économie aujourd'hui, tu te dirais c'est quoi ?
Femmes-hommes ? Ou...
Ouais, potentiellement, ouais.
Sur les femmes-hommes ? Ouais. Bah, t'en as une pour moi qui est évidemment très très importante, c'est le congé paternité. C'est la source de nombreuses inégalités. Ça fait partie des choses qui sont absolument essentielles. Après, c'est plutôt vers le ministère de l'Éducation que je me tournerai sur les questions des inégalités femmes-hommes pour poursuivre le sens de notre discussion, pas tellement le ministère de l'Économie. Alors, le congé paternité, ça c'est ça, oui. Pour l'économie, bien sûr. Et ensuite, c'est la question de la formation des professeurs aux inégalités de genre, et ce, à partir de la crèche, puisqu'on sait que les inégalités de genre commencent déjà à se manifester à la crèche.
Bien sûr.
Dans la crèche de mon fils, là, j'ai dû aller plaider la cause pour qu'il me change les marionnettes de leur petit spectacle où c'était un chevalier, une princesse, un dragon. Non. Non, non, je pense qu'ils sont très contents avec un éléphant, un tigre, un chien et un petit singe. C'est très bien aussi. Ils n'étaient pas obligés de leur mettre princesse chevalier tout de suite à 8 mois, quoi. Mais c'est évidemment, plaisanterie à part, la manière dont sont construites les cours de récréation, les aires de jeu, la manière dont la parole est distribuée dans les salles de classe. Les professeurs donnent, les études le démontrent aussi, plus facilement la parole à un petit garçon qui lève la main à une petite fille, y compris les femmes professeurs. Donc il y a énormément de choses à faire. La manière dont les résultats scolaires des filles et des garçons sont appréhendés et par l'école et par les parents. Et c'est moins grave si la petite fille est moins bonne en maths que le petit garçon. Y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, les petits garçons se retrouvent avec des difficultés de lecture beaucoup plus importantes que les petites filles, parce que à force de moins les encourager sur certaines verticales, en fait les petits garçons se prennent énormément de retard, ce qui est un énorme sujet, parce que d'ailleurs c'est très politiquement correct de dire ça, mais dans les années à venir il va falloir probablement, y compris dans les pays en développement, mettre plus d'argent dans l'éducation des petits garçons, dans l'éducation des petites filles, parce qu'on en revient au empowerment versus le système. Si c'est pour empowerer les filles qui arrivent ensuite dans un système social, sociétal, qui n'est pas prêt à les accueillir, où les garçons n'ont pas été formés exactement au concept d'égalité et d'équité, ça ne peut pas fonctionner. Donc évidemment, le féminisme doit aussi bénéficier aux petits garçons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce mot-là ne me gêne pas. Le féminisme s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.
Bien sûr.
Et c'est là que je trouve l'approche intersectionnelle particulièrement intéressante. Mmh. Le féminisme ne s'arrête évidemment pas à la question de la femme, surtout blanche, mon Dieu. Mmh. Il faut aussi parler du millefeuille d'inégalité qui lui est consubstantielle.
Ouais. Ouais.
C'est un humanisme avant toute chose.
Bien sûr. Ah ben, je me bats pour ce discours. Hein.
Je ne sais pas si tu connais Lexi d'Aggressively Trans, qui fait un travail éducatif extraordinaire sur les transgenres.
Non,
moi, en tant que féministe, ça me fait beaucoup de bien de suivre. Je suis beaucoup de comptes sur d'autres combats qui me rappellent, mais qui d'ailleurs parfois sont en conflit ouvert avec les féministes. Et notamment Lexi, j'ai pas envie de parler à sa place, elle n'a pas besoin de moi, parle beaucoup de ce qu'on appelle les TERF, c'est-à-dire les radicales féministes, qu'elle qualifie, elle, de parfois transphobes, c'est-à-dire qui ne sont pas aussi ouvertes à la cause transgenre que ce qu'elle le souhaiterait. Elle a très probablement raison. C'est très bien de se rappeler quand même que notre combat ne doit pas devenir le combat de femmes privilégiées blanches, et qu'on ne doit pas perdre de vue que d'autres ont des inégalités systémiques parfois encore plus violentes que les nôtres.
Bien sûr.
Et pour moi, c'est uniquement dans ces conditions-là que ce féminisme est pérenne et que moi, je suis à l'aise de le défendre. Ça, c'est absolument essentiel pour moi. Alors, je ne suis pas une parfaite féministe, une bad féministe, puisque maintenant...
J'ai vu ce bouquin.
Roxane a eu la gentillesse de bien vouloir populariser l'expression. I'm a bad feminist, comme tout le monde. Mais je fais très attention de me rappeler quand même mes propres biais. Et notamment par rapport à des sujets dont on parle beaucoup moins en France, que ce soit les transgenres ou tout simplement même le racisme. Hein, je veux dire, la réalité de ce que c'est que le racisme, c'est un vrai sujet que je connais mal puisque je suis blanche, par définition. Donc je me force à m'éduquer là-dessus.
Et t'as un fils en plus. Donc tu vas être chargée de l'éduquer.
Mais je le fais déjà. Et j'ai fait, et tu vois, je fais, c'est très bon sujet, les livres pour enfants.
Ouais.
Je suis obligée de faire venir des États-Unis des bouquins pour qu'il y ait des enfants de couleur dans ces livres. Pour que ce ne soit pas que des petits blancs. C'est pas évident de mettre la main sur de la littérature jeunesse qui serve de support à ce type de discussion. Là, il est petit, mais c'est vrai que c'est important, pour moi en tout cas.
Est-ce que tu aurais un coup de gueule et un coup de cœur à passer ?
Je viens de le faire, là.
Non, mais je ne sais pas, tu en as peut-être un autre, ou sinon tu en as... Oui, c'est vrai que tu viens de passer un coup de gueule, mais
oui.
Est-ce que tu as un autre truc à dire ?
Bah, un coup de gueule, on en a parlé toutes les deux.
Ouais.
C'est sur les représentations glamourisées, bubblegumisées de la maternité, de la féminité en général, mais ça, on en revient un petit peu. Mais de la maternité, je trouve qu'on est encore un peu trop dedans.
Ouais. Sur l'image, je veux dire qu'on renvoie. On doit être comme si
les injonctions sociales sur la maternité, de voir sur Instagram ces nanas coiffées, habillées par des créateurs, les gamins en randonnion, le salon décoré. Comme si le designer venait de sortir de chez toi, les gamins tout propres, les hashtags Happy Family, Life is Beautiful, Mompreneurs. Oui, c'est un peu dur parce que quand tu vois ça, je sais pas d'où elles sortent, je sais pas comment elles font. Moi, personnellement, c'est pas à ça que ressemble ma vie. Mais je trouve qu'on se fait beaucoup, de mal. Alors, tu vas me dire, on est libre de pas les suivre. Oui, mais elles sont aussi, je pense, en capacité de se poser la question de leur responsabilité sociale.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Si c'est une
responsabilité.
Ouais, ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment. Ouais, ça me gonfle quand je vois ça, je me dis, mais.
Non, mais ça renvoie les gens.
Ça me fatigue.
Ouais, ça fatigue et ça fait de la peine, en fait. Je pense que ça fait de la peine à des gens qui peuvent pas gérer l'image, qui peuvent pas gérer la distance, qui... Non, il y a un effet pervers, bon, ça on le sait tous, particulièrement sur les mamans. Enfin, moi je ne suis pas maman, mais en tout cas, je me mets parfois à la place d'une maman et je me dis, mais mon Dieu. Déjà qu'en tant que femme, on te demande d'être comme ça, mais alors en plus, quand t'as des enfants, on te remet un niveau de plus.
Ouais, et puis, tout est très cohérent, puisque comme je sais que le fil rouge de ton podcast, c'est l'impact, il est évident que ce type d'image, tu les vois surtout sur des comptes CSP++ qui te poussent à un consumérisme sur lequel je pense que chacun est libre de s'interroger, sur la pertinence duquel chacun est libre de s'interroger. C'est aussi associé à une domination socio-économique insupportable. Donc il est évident que quand t'es mère célibataire, que t'as pas un rond et que tu vois ça, alors il paraît que...
Ça peut te faire péter un plomb, je pense.
D'autres disent, mais non, c'est très bien que c'est pas vrai, c'est comme ouvrir un magazine People. Ok, sauf que...
Oui, mais tu le vois toute la journée et puis t'es dedans toute la journée.
On te dit pas que c'est pas vrai, or ça n'est pas vrai.
Oui. Mais on te dit pas que c'est pas vrai, t'as raison, donc il y a une responsabilité.
Tu vois, mes coups de gueule, c'est ça, c'est la fausse image, c'est les fausses images sur la maternité, et coups de gueule donc connexe, c'est l'importance de prendre conscience de ses privilèges socio-économiques. C'est quand même fondamental de se rappeler où on est né, la chance qu'on a eue. Je te dis, moi, je ne crois pas. C'est pas que je ne crois pas à la méritocratie. Je pense qu'il faut la relativiser très sérieusement. Voilà, quand tu regardes l'échelle sociale, la progression sur l'échelle sociale en France, la difficulté que ça peut représenter aujourd'hui pour les générations d'aujourd'hui de s'imaginer que leurs enfants vont faire mieux qu'eux, réussiront mieux qu'eux. Il faut quand même prendre conscience de la chance qu'on a quand on est dans un milieu privilégié. C'est Et c'est vrai que de balancer ça sur Instagram avec parfois je trouve un manque de décence, mais c'est à titre personnel, qui me choque, sincèrement. Et je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance de naître dans un milieu privilégié. Ça me rend malade. Mais c'est vraiment, et j'ai honte. Mais en fait, j'ai honte. J'ai sincèrement honte, vraiment. Je suis terriblement mal à l'aise.
Bah c'est ça, c'est qu'avant, les gens ne voyaient pas ce que ça signifiait d'être milliardaire ou d'avoir... et là, ils ont le nez dedans. Et c'est vrai que je pense que ça peut... On va dire, la richesse aujourd'hui a des attributs visuels, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, je pense que ça peut effectivement causer des troubles mentaux.
Bah oui, et puis encore une fois, tant mieux pour ceux qui ont, c'est bien, ils ont eu de la chance, c'est super, ils ont eu beaucoup de chance, et beaucoup le savent très bien d'ailleurs, hein, je fais la leçon à personne en disant ça, mais c'est vrai que c'est, sur certains comptes, t'as un peu moins l'impression que les gens réalisent exactement ce qu'ils disent, quoi. J'en voyais une parce que forcément pour mon boulot je regarde de temps en temps les réseaux sociaux, même si je poste rien parce que c'est pas mon choix de vie, mais une qui disait hey, vous pour Noël vous êtes plutôt île Maurice ou Maldives. J'ai envie de lui dire mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'écris? C'est une décence que je trouve.
Exactement. Mais décence et responsabilité, aujourd'hui, ça, c'est très lié.
Ouais.
Je pense que c'est trop.
Je sais pas. Mais peut-être que je sais pas.
Non, mais moi, je te rejoins. Hein. Enfin, je partage totalement ton point de vue. Est-ce que tu aurais un coup de cœur?
Ah ouais, j'en ai plein.
Parce que tout à l'heure, avant qu'on appuie sur le bouton, on se parlait de podcast et tu me disais que t'en écoutais beaucoup.
Ouais,
ça m'intéresse
beaucoup
de savoir ce que t'écoutes.
Ouais, bah, je te dis, alors, déjà sur les comptes que j'adore. Donc il y a vraiment le compte de Lexi, Aggressively Trans, que je trouve génial. Moi, elle m'aide à comprendre beaucoup de choses, vraiment. Ça, celui-là, je l'adore. Je suis aussi, alors c'est un compte très controversé, très désagréable parce que il secoue beaucoup de notre confort de blanc justement. Il s'appelle Now White Savior. Il est vraiment dur, hein, honnêtement, parce que voilà. Mais je le trouve important. C'est une perspective à laquelle on n'est pas habitué, donc par définition, elle me fait du bien. Raising Zoomer, que j'adore, qui est un compte de gender creativity. Donc, c'est des parents qui ont décidé de ne pas donner le genre de leur enfant. C'est un peu extrême, évidemment, mais c'est intéressant de regarder comment ils font ça. Il y a des bonnes petites idées à prendre que je trouve bien. Ça, c'est les choses que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Évidemment, le compte de We Are Sister. Ça, c'est nous, bien sûr. Pour les comptes que j'aime, voilà.
Et en podcast?
Et en podcast, alors, j'en écoute beaucoup. Alors là, comme tout le monde, évidemment, bon, Les Couilles sur la Table, bien sûr, j'adore. J'aime beaucoup...
Très bon livre.
Comment ?
Elle a écrit le livre.
Oui, j'ai commandé pour Noël.
Ouais.
Je ne l'ai pas encore lu, Les Couilles sur la Table, que je trouve être un très, très bon podcast. J'écoute Feminist Frequency, qui est un podcast américain que j'aime beaucoup aussi. J'écoute Modern Love, que j'adore.
Comment tu dis ?
Modern Love, qui est le podcast du New York Times, que je trouve très chouette, que j'aime beaucoup aussi. Après, moi, j'écoute les podcasts d'Harvard, que je trouve géniaux, notamment sur du Women and Public Policy Program, qui sont top sur les études de genre. Le podcast de la Harvard Business Review sur les femmes, que je trouve génial.
Très
je crois que ça s'appelle Women in the Workplace, qui est super.
Excellent.
Alors, évidemment, là aussi, je précise, non, je n'écoute pas tes podcasts à tous les épisodes, parce que ce n'est pas possible, mais... Non, parce que tu sais, les gens te vendent podcast, mais fais ça quand? Mais j'essaie quand même d'en écouter quand je peux. Ça serait vraiment mes coups de cœur en ce moment. Ah oui, si, et une web-série que j'adore, c'est Martin Sexe Faible.
Martin, c'est que ce fait que tu regardes ça où ?
C'est génial, sur YouTube. C'est, en fait, il y a eu un film sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile, avec Vincent Elbaz, qui est génial.
Je l'ai vu. Ah, t'as aimé ? Moi, j'ai pas aimé.
Ah, j'ai adoré ce film.
Ah ouais ?
Et il y a une web-série qui s'appelle Martin, sexe faible, ouais, qui est encore plus fine, je trouve, encore plus drôle.
Okay.
Et qui est,
sur YouTube.
Fait, et qui est basée sur le même concept, c'est-à-dire la vie, qu'est-ce que c'est que la vie des hommes dans un monde où le patriarcat est un matriarcat.
Mais ça commence à sortir, là. Il y a de la littérature qui va s'écrire là-dessus. Parce qu'on les oublie quand même. Enfin, c'est pas qu'on les oublie, mais il faut pas les oublier, nos bonhommes, quoi.
Il faut surtout pas, mais surtout,
ils sont indispensables à nos vies.
C'est idiot de les oublier pour de nombreuses raisons. Et moi, je vais te dire, là, je vais faire une remarque d'activiste. Encore une fois, c'est eux qui tiennent 95% des postes de pouvoir dans le monde. Mmh. Donc, se foutre à dos les gens qui tiennent 95% des clés, c'est un non-sens, tu vois. Donc, évidemment. Et puis, et ensuite de ça, il faut pas être dans le, il ne faut jamais, de mon point de vue, être dans le silence de l'opposition.
Ouais.
C'est très inquiétant quand tu n'entends pas tes opposants. Très inquiétant.
C'est ça.
Et à mon grand regret, vraiment, je le regrette sincèrement, je trouve les masculinistes français beaucoup moins construits intellectuellement que les masculinistes américains. Ils sont sur les réseaux sociaux beaucoup, ils harcèlent d'ailleurs énormément de féministes.
Je sais, moi, il y a une partie de comptes Instagram qui ont été bloqués, à mon avis, pour des sales.
Ils sont très violents dans les propos et beaucoup de féministes, d'ailleurs, se retirent des réseaux sociaux à cause de ça. Donc je dis bien le manque de, pas le manque en numéraire, je parle de leur manque de construction intellectuelle. C'est-à-dire que aux États-Unis, les masculinistes sont beaucoup, beaucoup plus au fait des études, sont beaucoup plus structurés dans leur pensée. N'hésite pas à regarder le documentaire qui est aussi un coup de cœur qui s'appelle The Red Pill sur Netflix, qui est un documentaire réalisé par une réalisatrice féministe sur les masculinistes américains. Il est absolument passionnant parce que tu te rends compte que les masculinistes américains ont un point de vue valide.
Bah, au moins t'as un alter ego. Enfin, au moins
tu sais à qui tu parles, tu sais quels sont leurs arguments. Ouais. C'est important d'écouter toujours les arguments des gens, surtout quand ils sont violents et pas d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire que la violence est autorisée. Ça ne veut pas dire que les transgressions, y compris dans le cadre de la loi, sont autorisées. Mais intellectuellement, toi, quand tu défends une cause, moi, ce qui est mon cas, de garder toujours près de toi ceux qui pensent différemment, comprendre quels sont leurs arguments. Si tu n'es pas capable d'avoir de l'empathie pour tes adversaires, à titre personnel, quand je ne suis pas capable d'avoir de l'empathie pour mes adversaires, je considère que je n'ai pas bien fait mon travail.
C'était l'empathie que je voulais utiliser tout à l'heure.
Absolument.
J'ai utilisé bienveillance, mais c'était empathie que je cherchais.
On doit pouvoir se mettre à la place des gens qui ne sont pas d'accord avec nous.
Bien sûr.
Et comprendre leurs arguments.
C'est évident.
Et malheureusement, les masculinistes français ne sont pas bons. Ils sont violents, ils sont gênants, mais intellectuellement, c'est difficile d'avoir un vrai répondant, quoi.
Est-ce que tu as un challenge prochainement ?
J'en ai plein.
Dont tu veux parler, après tu n'es pas obligé d'en parler, mais...
Alors j'aimerais réussir à faire une recette de cuisine non foirée. Mais je te jure, je n'ai jamais réussi. J'ai un mari qui cuisine divinement bien, heureusement qu'il me nourrit, parce que sinon ça serait la famine à la maison. J'aimerais vraiment sincèrement réussir un jour à cuire un truc correct.
Okay.
C'est tout. J'ai réussi à foirer la purée de mon petit garçon. On parle d'une purée sans sel, sans rien. J'ai réussi à foutre trop de persil, il était imbouffable. C'est le seul truc qu'il a refusé de manger depuis sa naissance. Non, mais je te jure, j'aimerais vraiment, ça me ferait plaisir de réussir un jour à cuire un truc correct. Ça, c'est un challenge assez facile. Non, mais c'est vrai. Deuxièmement, j'aimerais comprendre comment marche mon Mac. Ça, c'est un deuxième challenge. Je suis sur Mac depuis 10 ans. Je pense que j'exploite 10% du potentiel de mon Mac. Je tape avec deux doigts. J'ai honte. Donc, ça fait partie vraiment d'un petit challenge. Tu vois, je me mets des objectifs assez.
Ouais.
Voilà.
Okay.
Donc, ça fait partie d'un petit challenge.
Ouais.
J'aimerais à terme monter ma boîte, ça, c'est sûr.
Ouais.
C'est un challenge beaucoup plus gros. Et j'adorerais réussir à concilier du fort profit, parce que c'est important pour moi, et à la fois la cause féminine. J'aimerais réussir à pouvoir monter un business qui soit les deux.
Attends, fort profit, voilà, on précise.
Fort profit,
c'est rentable,
et à la fois qui est rentable, et bien rentable, suffisamment pour pouvoir intéresser mes salariés au capital de manière substantielle, pour pouvoir leur faire partager ce que je l'espère sera un succès, et à la fois qui serve la cause des femmes, quoi. J'ai besoin d'alignement, moi. Gagner de l'argent avec un business dont j'aurais l'impression qu'il n'apporte rien aux femmes, ou pire, qu'il est contre-productif, j'aurais du mal à me lever le matin. Et à l'inverse, me lever le matin sans avoir des métriques de rentabilité, en tout cas, je ne suis pas encore là sur mon cheminement intellectuel. J'ai encore besoin de KPIs, de renta. C'est peut-être un tort, hein. D'ailleurs, je suis ravie, si tu as des auditeurs et auditrices, qui ont monté des non-profits dans le secteur avec des KPIs non rentable, mais intéressante et suffisamment motivante, ça m'intéresserait, parce que pour l'instant, je vois pas comment hors de la renta c'est possible. Donc ça, c'est mes petits challenges, du plus petit au plus grand.
Magnifique. Bah écoute, je te souhaite d'y parvenir.
Ah bah écoute, je te remercie, je t'enverrai une photo de mon prochain gâteau.
Ah bah oui, oui. Bah écoute, c'est la saison de Noël là.
Merci à toi de m'avoir invité.
Merci mille fois, j'étais ravie d'échanger avec toi, Valentine.
Longue vie à ton podcast.
Merci, à très bientôt. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
T'es fou, hein? Pété ou pas, elle est collector, ma yaourtière.
Ce truc-là, c'est... Bon, je sais plus, hein, mais si je le garde, c'est au cas où, quoi.
Tu vois ce vieil ordi cassé? Eh ben, je peux pas le jeter. C'est grâce à lui que j'ai rencontré ta mère.
Si vous aussi, vous avez du mal à vous séparer d'un appareil qui ne marche plus, sachez que tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie se recycle en magasin et en déchetterie. C'est simple et utile pour l'environnement. Alors, trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.